Les cours du Collège de France, Atomes et rayonnement, Jean Dalibard.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, et bienvenue dans cette nouvelle séance du cours de cette année, qui, comme vous le savez, est consacrée aux fluides quantiques couplés, plus spécifiquement aux jonctions Josephson. Et donc aujourd'hui, on va s'intéresser à ce qu'on appelle des jonctions internes, et plus précisément, ce sera des jonctions qui porteront sur des atomes. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, comme d'habitude, je vous rappelle que ce cours sera suivi d'un séminaire. Ce séminaire sera donné par Benoît Vermersch, ici présent, de l'Université de Grenoble-Alpes et de la start-up Cobly. Et Benoît va nous parler de l'effet Memba, la version quantique de l'effet Memba. J'avais déjà mentionné cet effet Memba la dernière fois, je vous rappelle ce que c'est. C'est un effet très paradoxal, hein. Vous prenez deux verres d'eau, un verre d'eau chaude, un verre d'eau froide. Vous mettez ces deux verres d'eau dans votre congélateur. Question, quel est le premier qui gèle, qui va geler? Eh bien, c'est le verre d'eau chaude et non pas le verre d'eau froide. Voilà, ça c'est l'effet Memba et Benoît va nous parler de la version quantique de cet effet et de la compréhension qu'on en a. Voilà. Donc, aujourd'hui, comme je le disais, on va parler de jonctions internes. Donc, comment ça se situe ça? Eh bien, je vous rappelle les jonctions externes qu'on a regardées jusqu'à maintenant. Aussi bien des jonctions supraconductrices que des jonctions réalisées avec des atomes. Ça consiste à avoir des atomes qui peuvent être, disons, à gauche, ici, dans l'état que je vais noter phi A de X, des atomes qui peuvent être à droite, dans un état que je vais noter phi B de X, et les atomes peuvent passer par effet tunnel, à travers la barrière rouge, ici, de A vers B et de B vers A. Donc l'état général de la jonction peut s'écrire comme combinaison linéaire de phi A de x et phi B de x, avec des amplitudes de probabilité alpha A de t et alpha B de t. Et l'équation d'évolution des alpha et des alpha B redonne les relations de Josephson que Josephson avait écrites pour une jonction supraconductrice en 1962. Eh bien, les jonctions internes, ça consiste à remplacer ces états A et B, qui sont donc des états externes, des fonctions d'onde qui dépendent de la position, par des états internes des particules, par exemple leur spin. Ça peut également être un niveau hyperfin issu du niveau électronique fondamental pour des atomes. Donc, j'ai deux états internes possibles, l'état A ici, l'état B là. Ces deux états peuvent être couplés par, on va le voir, une radiofréquence, une micro-onde, des lasers. C'est ce couplage ici qui joue le rôle de la barrière tunnel dans les jonctions externes. L'état général d'un atome et plus généralement de l'assemblée d'atomes, eh bien on va le prendre sous la forme d'une combinaison linéaire de A et de B avec des amplitudes de probabilité alpha et alpha B. Cette fois-ci, mes atomes ne sont pas séparés spatialement, j'en ai pas certains à gauche, d'autres à droite, ils partagent tous, on va le voir, la même fonction d'onde spatiale, et la dynamique intéressante, elle se passe au niveau des degrés de liberté internes. Mais sur le plan conceptuel, eh bien on va voir que les équations sont très similaires, et donc on peut qualifier ça effectivement de jonction Josephson. Alors historiquement, cette idée de jonction interne a été introduite pour la première fois par Tony Leggett. Tony Leggett, c'est vraiment un nom qui revient fréquemment dans ses études sur les jonctions Josephson, il a joué un rôle essentiel. Ce que Tony Leggett avait en tête tout au début, en 1926, donc 4 ans après la proposition de Josephson, c'était un modèle de supraconducteur à deux bandes, et c'était donc les deux bandes de ce supraconducteur qui jouaient le rôle des états A et B respectivement. Alors en fait, ce modèle de Leggett n'a pas vraiment été implémenté en pratique, il y avait des difficultés pratiques qui s'y opposaient, mais il a été remis sur le devant de la scène quelques années plus tard, quand on a découvert la superfluidité de l'hélium-3. Donc l'hélium-3, je vous rappelle, c'est un fermion, donc une particule de spin 1/2, hein, enfin le noyau hélium-3 a un spin 1/2. Donc on a découvert la superfluidité de l'hélium-3, et on a découvert qu'il avait plusieurs phases. On a fait des études par résonance magnétique nucléaire de cet hélium-3, et il y avait des grosses anomalies dans les signaux, et c'est Leggett qui a pu les expliquer, et comme ça, d'ailleurs, mettre en évidence l'existence de différentes phases et expliquer la structure de ces phases. Le prix Nobel que Leggett a eu plus tard, d'ailleurs, était à propos de ce travail qu'il avait fait sur l'hélium-3. Voilà, donc ça, ce sont les jonctions internes il y a longtemps. Et puis, donc, ça a été transposé beaucoup plus récemment, à partir des années 2010. Ça a été transposé à des gaz d'atomes froids. Donc, comme je le disais, les états A et B, pour les gaz d'atomes froids, c'est soit des sous-niveaux Zeeman d'un même niveau hyperfin, soit deux niveaux hyperfins différents. L'important, c'est que ce soit des états de longue durée de vie. Donc, en général, c'est des états qui sont issus du niveau électronique fondamental. On peut les coupler par une radiofréquence ou par une micro-onde, ou on peut les coupler par une paire de faisceaux laser. Donc là, vous voyez, je peux partir de l'état A, faire une absorption d'un photon dans un laser, suivi d'une émission stimulée dans un autre laser qui me fait passer de A vers B avec un passage virtuel dans l'état excité. Mais on essaie de désaccorder un petit peu ces faisceaux laser pour ne pas peupler l'état excité et pas créer de dissipation via des phénomènes d'émission spontanée. Alors, comme je le disais, sur le plan conceptuel, eh bien, ces jonctions internes sont vraiment très similaires aux jonctions externes, mais il y a des différences pratiques qui peuvent être importantes dans les ordres de grandeur. Le couplage tunnel, par exemple, qui est en général est petit, quand vous avez affaire à une vraie barrière physique qui sépare deux gaz, le couplage tunnel est en général petit. Là, le couplage tunnel, il est remplacé donc par cette micro-onde qui pilote les transitions de A vers B. Et ça peut être aussi grand qu'on veut. Il suffit d'augmenter la puissance de la micro-onde. Donc, ce qu'on avait appelé l'énergie EJ, quand on décrivait le couplage tunnel dans les cours précédents, eh bien, cette énergie EJ va être potentiellement plus grande par rapport aux autres paramètres du problème qu'elle ne l'était dans le problème d'une jonction externe. Quant à l'énergie de charge, EC, qui était l'autre paramètre important pour décrire notre jonction, on avait cette paire d'énergie EJ et EC, l'énergie de charge EC, qui décrit les interactions entre atomes, eh bien, elle va être plus riche. Les interactions entre atomes dans une jonction externe, eh bien, elles sont très basiques. J'ai les atomes qui sont dans la partie A qui interagissent avec les autres atomes dans la partie A, ceux de B interagissent avec les autres atomes dans la partie B, et puis il n'y a quasiment pas d'interaction entre A et B puisqu'il y a une barrière tunnel entre les deux. Là, les états A et les états B sont au même endroit spatialement, ils diffèrent par l'état interne de l'atome, mais ils sont au même endroit spatialement, donc les A et les B vont interagir entre eux. Donc on se retrouve en fait avec trois types d'interactions possibles qui peuvent être toutes les trois différentes, les interactions entre deux atomes dans l'état A, les interactions entre deux atomes dans l'état B, qui ne sont pas forcément les mêmes, puisque ce n'est pas le même état interne, donc a priori, le constant d'interaction n'est pas forcément égal, et puis les interactions inter-espèce, si je puis dire, c'est-à-dire l'interaction entre A et B. Et donc ça ajoute de la flexibilité au problème, puisqu'on peut manipuler, via des résonances de diffusion, indépendamment chacune de ces trois constantes d'interaction AA, BB et AB. Voilà, alors le plan du cours pour aujourd'hui va être le suivant. Je vais commencer par des choses que probablement beaucoup d'entre vous connaissent, mais je préfère le faire tranquillement au tableau pour bien assurer les bases. C'est ce qui se passe quand j'ai un seul atome couplé à un champ cohérent. C'est ce qu'on appelle l'atome habillé. Donc j'aurai un champ monochromatique, quasi résonant, et on va établir les états propres de ce système. Ensuite, on mettra beaucoup d'atomes, c'est quand même ça le but. Et on les mettra tous dans le même mode spatial. Donc je vous expliquerai bien ce qu'il faut pour que cette idée que dire que les atomes sont tous au même endroit, qu'est-ce qu'il faut satisfaire. Et on verra la représentation de Schwinger pour notre ensemble d'atomes bosoniques. Et on verra son lien donc avec l'algèbre d'un grand moment cinétique. Ensuite, on vérifiera que cette représentation de Schwinger, cet algèbre de moment cinétique, permet bien de retrouver la jonction Jeffson. Et en dernière partie, eh bien, on verra un effet intéressant qui apparaît, qu'on n'avait pas encore abordé avec les jonctions externes, qui est la possibilité de voir des transitions de phase et des bifurcations dans ces jonctions atomiques. Voilà. Donc commençons par ce préliminaire sur le cas donc, d'un atome unique couplé à un champ monochromatique. Et là, bon, je vais le faire au tableau pour bien poser les bases. Donc je prends un atome que j'appelle un atome à deux niveaux, donc avec ses deux états A et B. Donc A et B comme ça. J'appelle oméga 0 la fréquence de résonance qui permet de passer de A à B. Je suis libre de fixer le zéro d'énergie où je veux, donc on va dire que l'état A a une énergie plus H bar oméga 0 sur 2 et l'état B a une énergie moins H bar oméga 0 sur 2. Et donc, mon atome libre, il a un Hamiltonien que je peux appeler H0, qui est simplement H bar oméga 0 sur 2, le projecteur sur l'état A, le quai de bras AA, moins le projecteur sur l'état B, quai de bras BB. Voilà. Maintenant, on va coupler cet atome à un champ cohérent. Et ce couplage, je vais l'écrire sous la forme grand V, qui est donc un couplage qui va dépendre du temps, V de T. Je vais lui mettre un moins H bar grand oméga. Et puis, donc, quelque chose qui me fait passer de A à B et de B à A. Donc, le quai de bras AB plus le quai de bras BA. Voilà. Bon, par convention, ici, je mets un moins et ce couplage dépend du temps. Et donc, j'ai un cosinus oméga T. Alors, grand oméga, c'est ce qu'on appelle la fréquence de Rabi. Je vais introduire le désaccord delta, qui est la différence entre la fréquence à laquelle je pilote mon système à deux niveaux et la fréquence oméga 0 nue du système, donc oméga égale oméga moins oméga 0. Et dans tout ce que je vais dire aujourd'hui, eh bien, on va se mettre dans le cas d'un champ pas trop intense et proche de résonance, c'est-à-dire que je vais supposer que ma fréquence de Rabi grand oméga et que mon désaccord delta, je peux même dire valeur absolue delta parce qu'il peut être positif ou négatif, ça c'est très petit devant la fréquence nue oméga 0 ou devant oméga, c'est-à-dire que oméga et oméga 0 sont proches l'un de l'autre, donc leur différence est petite devant les valeurs intrinsèques oméga 0 et oméga. Et il en va de même pour la fréquence de Rabi. Voilà, donc ma fonction d'onde pour mon atome, ces atomes à deux niveaux, psi de t, je vais l'écrire sous la forme alpha a de t, petit a, plus alpha b de t, petit b. Et les coefficients a et b, ils évoluent selon l'équation de Schrödinger. Donc mon évolution pour mon système, elle est donnée simplement en écrivant l'équation de Schrödinger, IH bar dψ sur dt égale Hψ, où le H, eh bien, ça va être la somme de H0 et puis de V de t. Donc ça va avoir l'allure suivante, IH bar dψ sur dt, donc alpha, je vais écrire les deux composantes, alpha A point et alpha B point. IH bar alpha A point, ben, la première partie, c'est l'évolution libre, donc j'ai du H bar oméga 0 sur 2 alpha. Et puis, j'ai le couplage induit par le champ cohérent, qui va donc être un moins h bar grand oméga. J'ai ce cosinus oméga t. Et puis, j'ai alpha b. Donc, je couple alpha et alpha b via ce terme proportionnel à la fréquence de Rabi. Et de la même façon, j'ai le ih bar alpha b point égale moins h bar oméga 0 sur 2 alpha b, moins h bar oméga, cosinus oméga t alpha. Voilà, donc ça c'est le système de deux équations qu'il faut résoudre si on veut avoir l'évolution exacte des coefficients alpha et alpha b de ce système. Alors, ce système là, il n'a pas de solution analytique. La raison pour laquelle il n'y a pas de solution analytique, c'est qu'en fait il y a plusieurs fréquences dedans, c'est-à-dire que si je développe le cosinus oméga t sous la forme e puissance plus i oméga t et puissance moins i oméga t, ben, j'ai ces deux fréquences plus et moins oméga qui vont générer plein d'harmoniques et je ne peux pas donc trouver de solution analytique simple à ce système. Je peux le résoudre numériquement bien sûr, mais analytiquement c'est difficile à résoudre et en fait c'est pas très, très intéressant parce qu'il y a des termes qui sont importants et d'autres termes qui sont complètement négligeables dans ce système. Ils sont complètement négligeables à cause de cette hypothèse ici que grand oméga et delta sont très petits devant oméga 0 et oméga. Donc on va simplifier ce système, on va négliger des termes qui sont non pertinents pour ne garder que ceux qui ont de l'importance. Et pour trouver quels sont les termes importants, eh bien, on peut regarder ce qui se passe quand on regarde l'évolution libre. C'est-à-dire si je néglige le couplage avec le champ cohérent, ce que je vois c'est que alpha de t, je peux mettre évolution dominante, je vais l'appeler comme ça, évolution dominante. L'évolution dominante, c'est que alpha de t, quand il est tout seul, il va évoluer en e puissance moins i oméga 0 t sur 2. C'est ce que j'ai là, i alpha point égale oméga 0 sur 2 alpha. Et de la même façon, alpha b de t, il évolue en e puissance plus i oméga 0 t sur 2. Donc on va tirer parti de ça pour faire ce que l'on appelle donc l'approximation du champ tournant, pour ne garder dans ce système-là que les termes qui sont les termes quasi-résonants. Donc, approximation du champ tournant. Donc, ça veut dire quoi, cette approximation du champ tournant ? Eh bien, si je prends, par exemple, le cosinus oméga t fois alpha b, ici. Alpha b, je vous dis, son évolution naturelle, il est en puissance plus i oméga 0 t sur 2. Je dois le mettre en face d'un alpha qui, lui, évolue en puissance moins i oméga 0 t sur 2. Donc, le terme que je vais garder dans le cosinus, en le développant sous la forme puissance plus i oméga t, puissance moins i oméga t, ce sera la puissance moins i oméga t qui me fera passer, donc, le alpha b qui évolue en puissance plus oméga, avec, ça tournera à la même vitesse, enfin, ça évoluera à la même vitesse, ou presque à la même vitesse que le alpha. Et on fera juste l'inverse dans le deuxième terme. Donc, à ce moment-là, on obtient le système qui est IH bar alpha à point égale H bar oméga 0 sur 2 alpha. Et donc, j'écris le cosinus comme la somme de deux, et puissance i oméga t et puissance moins i oméga t, donc moins h bar oméga sur 2, et je ne garde donc que le terme en puissance moins i oméga t alpha b. Et dans l'autre équation, donc c'est en fait c'est un à peu près approximativement égal, mais c'est vraiment une très bonne approximation si l'inégalité là-bas est vérifiée, à peu près égal à moins h bar oméga 0 sur 2 alpha b, moins h bar oméga sur 2, cette fois-ci je garde la puissance plus i oméga t, alpha. Voilà. Alors ce système-là, lui, il admet une solution exacte. Pour le voir, le plus simple, c'est de faire un changement de fonction inconnue. Donc j'ai posé bêta a de t égale alpha a de t, et je vais le multiplier par e puissance, alors c'est puissance i oméga t sur 2, oui, c'est ça, de telle sorte que alpha évoluant en puissance moins i oméga 0 t sur 2, si je multiplie par ça, bien bêta a va évoluer doucement seulement. Et de la même façon, pour bêta b, je vais poser alpha b de t puissance moins i oméga t sur 2. Et une fois qu'on a fait ça, eh bien, on aboutit à un système qui est donc un système pour les bêta, qui va être i. Alors, je vais me débarrasser des h-bars. Hein. Vous voyez des h-bars partout, donc je peux les enlever. Donc, i bêta point. Alors, il a du oméga 0 sur 2 alpha, et puis il va avoir du oméga t sur 2, enfin une dérivée de puissance i oméga t sur 2, donc ce que je vais faire apparaître c'est moins le désaccord, moins delta sur 2 bêta a, moins oméga sur 2 bêta b, et de la même façon, i bêta b point, ce sera plus delta sur 2 bêta b, moins oméga sur 2 bêta a.
Voilà. Alors là encore, je vérifie que je n'ai pas oublié de facteur 2 ou de signe, mais ça a l'air bon.
Donc vous voyez, on s'est ramené maintenant à un système qui est indépendant du temps. Donc là, c'est facile. Hein. Finalement, on ne sait jamais rien d'autre ça que l'évolution sous l'effet d'un Hamiltonien grand H, qui est donc, je peux mettre le moins 2 en facteur, moins H bar sur 2, et puis donc delta et moins delta sur la diagonale, et puis oméga et oméga sur les termes non diagonaux. Voilà. Ou je peux encore écrire ça, si je veux, sous la forme, donc, moins h bar oméga fois sx, oui, je vais donner la matrice sx dans un instant, moins h bar delta sz. Et j'ai appelé sx la matrice, qui est la matrice d'un spin 1/2 habituel, 0, 1, 1, 0, et SZ, c'est donc 1/2 de 1, 0, 0, moins 1. Voilà. Donc c'est les matrices habituelles pour du spin, qui donnent les matrices d'un spin 1/2, hein, d'un système à deux niveaux. J'ai choisi de ne pas mettre de h-bar ici. Ce sera plus simple pour les notations après. Donc le h-bar figure explicitement dans l'équation qui est là. Voilà. Donc ça, c'est mon Hamiltonien, finalement. Donc c'est l'Hamiltonien pour un système à deux niveaux couplé à un champ cohérent à l'approximation donc du champ tournant. La dernière chose à faire dans mon programme ici, c'est diagonaliser cet Hamiltonien, trouver ses états propres. Alors ça, c'est pas bien compliqué.
C'est hamiltonien, donc si je le remets sous cette forme matricielle, si je le reprends sous la forme matricielle ici, je peux l'écrire sous la forme grand H égale. Donc je vais introduire la quantité qui est delta 2 plus oméga 2 de façon à faire apparaître des cosinus et des sinus dans cette matrice. Donc j'écris ça sous la forme moins H bar grand oméga bar sur 2, où j'ai oméga bar, c'est simplement racine de delta 2 plus oméga 2. Et donc, ce qui va me rester à l'intérieur de la matrice, ce sera donc des delta sur oméga bar et des grands oméga sur oméga bar que je peux mettre sous la forme de cosinus theta, sinus theta, sinus theta et moins cosinus theta. Voilà, où je pose donc cosinus theta égale, donc c'est le désaccord delta sur oméga bar et sinus theta, c'est oméga sur oméga bar. Bon, j'ai bien cos carré θ plus sin carré θ égale 1, avec la définition de oméga bar qui est ici. Alors j'aime bien mettre l'hamiltonien sous cette forme-là, parce que là, c'est tout de suite, on a tout de suite les états propres. Hein. Les deux états propres vont être ce qu'on appelle les états billets. Donc l'état 1, qui est l'état de basse énergie ici, donc c'est la valeur propre associée à cette matrice, la valeur propre plus 1 pour cette matrice. Donc c'est en fait cosinus θ sur 2 et sinus θ sur 2. Et il a l'énergie, donc E qui vaut E1 qui vaut moins H bar oméga bar sur 2. Et l'état 2, c'est l'état orthogonal, donc sinus θ sur 2. Alors, je mets une moins ici, moins cos θ sur 2, qui a l'énergie E2 égale plus H bar oméga bar sur 2. Voilà, donc là, on a résolu complètement notre problème d'un atome à deux niveaux, couplé à un champ cohérent. On a les états propres, on a l'hamiltonien à l'approximation du champ tournant, donc le problème est complètement résolu. Alors, ces états billets, donc là je les ai obtenus en prenant un couplage en cosinus oméga t. Vous pourriez me dire, oui, mais ça c'est un peu particulier, a priori je ne connais pas la phase du couplage. Donc effectivement, on peut faire des choses un peu plus générales. Bon, c'est exactement la même démarche. Hein. Si je prends une phase non nulle, donc un cosinus oméga t plus gamma, ce qui va se passer, c'est que les habillés vont acquérir cette phase gamma du champ cohérent. Donc j'aurai une puissance i gamma qui viendra se mettre sur la composante 1 ici, une puissance i gamma qui viendra se mettre sur la composante là. Ces deux états restent orthogonaux entre eux, restent normalisés. Voilà. Alors, il y a une visualisation commode de ces états billets qui est la sphère de Bloch. En fait, la sphère de Bloch, c'est un bon moyen pour visualiser tous les états d'un spin 1/2 ou plus généralement d'un système à deux niveaux. Donc, cette sphère de Bloch, ça consiste en quoi ? C'est une sphère de rayon 1. Et à chaque point de cette sphère, on peut associer un et un seul état possible pour notre système à deux niveaux. Donc, je vais le faire pour les états billets. Prenons par exemple l'état 1 ici. Eh bien, le point de la sphère qu'on va associer à cet état billé cos θ sur 2 et e puissance i gamma sinus θ sur 2, c'est un point dont la colatitude va valoir θ et sa longitude vaudra gamma. La longitude, c'est azimutal, hein, et la colatitude, c'est comme la latitude, sauf que c'est mesuré à partir du pôle nord plutôt que d'être mesuré à partir de l'équateur. Donc, l'état billé 1, eh bien, je le représente par ce point-ci que j'obtiens en partant du pôle nord, ici, en descendant d'un angle θ le long d'un méridien, et du méridien, ça peut être Greenwich ou Paris, celui que vous préférez, et puis ensuite vous mettez donc l'angle azimutal gamma en longitude. Voilà, donc l'état A lui-même, eh bien, je l'obtiens en prenant θ égale 0, dans cette équation ici, hein, si je prends θ égale 0, j'ai 1, 0, donc c'est le pôle nord. L'état B, je l'obtiens ici en prenant 0, 1, donc c'est le pôle sud, et donc chaque point de la sphère correspond à un et un seul état habillé, donc un et un seul lot de paramètres θ et gamma. Et l'état, le deuxième état habillé, l'état 2, ben, il est simplement diamétralement opposé à l'état 1. Hein, ça se voit tout de suite, puisque vous passez de 1 à 2 en changeant θ en pi moins θ et la longitude gamma en gamma plus pi. Donc les deux états habillés sont toujours diamétralement opposés. Voilà, donc c'est une visualisation assez simple de ces états billets. Et dans pas mal de situations qui vont venir, là, on va s'intéresser au cas d'une excitation résonante, grand delta égale 0, hein, donc petit oméga égale petit oméga 0. Et si delta est nul, vous voyez cosinus θ ici est nul, hein, sinus θ vaut 1. Donc si cosinus θ est nul, ça veut dire que je prends θ égale pi sur 2, donc θ sur 2 ici vaudra pi sur 4, ce qui veut dire que mes états sont sur l'équateur. Donc une excitation résonante, ça vous donne des états propres de l'hamiltonien qui sont sur l'équateur et encore une fois diamétralement opposés. Voilà, donc ça c'est quelque chose qu'on voit pour un atome unique, mais qui reviendra ensuite quand on aura beaucoup d'atomes. Voilà, donc voilà ce que je voulais vous dire pour l'atome unique, donc c'est pas bien compliqué. Et maintenant, eh bien, on va passer à notre collection de beaucoup d'atomes et on va essayer de voir quels sont les bons outils pour traiter cette collection de beaucoup d'atomes. Donc la première chose que j'aimerais expliquer, hein, c'est ce que j'appelle cette approximation du mode spatial unique. Comment est-ce qu'on s'y prend en pratique et quelles sont les contraintes à remplir? Donc ce qu'on veut, c'est avoir une collection d'atomes pour lesquels le degré de liberté de spin, le degré de liberté AB est pertinent, mais tous les autres degrés de liberté sont gelés, en particulier les degrés de liberté orbitaux, les degrés de liberté spatiaux. Donc on prend en pratique deux faisceaux lumineux qui se croisent au centre d'une enceinte à vide, et ces faisceaux lumineux sont très bien focalisés, de manière ici à avoir un piège très raide pour confiner les atomes. Donc j'appelle phi de R, la fonction d'onde de l'état fondamental spatial à l'intersection de ces deux faisceaux lumineux. Cette fonction phi de R, je la prends normalisée à l'unité. Et je vais supposer que les fréquences d'oscillation dans ce piège, tenu en croisant deux faisceaux, je vais supposer que ces fréquences d'oscillation sont très grandes devant toutes les énergies associées au degré de liberté interne, associées au spin, ce que je note ici mu s de façon un petit peu vague. Alors de quoi s'agit-il? Eh bien, ces énergies associées à μs sont des énergies qui vont faire intervenir, par exemple, le coefficient d'interaction GAA moins GBB. En effet, imaginons que je parte initialement de tous mes atomes dans l'état A et que je les fasse passer tous dans l'état B. Eh bien, je vais changer l'énergie d'interaction en la faisant passer de GAA à GBB. Enfin, donc, la question que je peux me poser, c'est il n'y aura pas exactement la même énergie d'interaction s'ils sont tous dans A ou s'ils sont tous dans B, a priori. La question, c'est est-ce que du coup, quand je fais ce changement-là, je vais exciter des modes spatiaux de mon système? Et si je veux éviter ça, puisque si je veux garder seulement les degrés de liberté de spin comme degrés de liberté pertinents, eh bien, il faut que ça me coûte trop d'énergie d'exciter les modes spatiaux. Donc il faut pour ça que H bar oméga I, les fréquences d'oscillation dans mon piège, soient très grandes devant cette énergie associée au passage de tous les atomes de A vers tous les atomes de B. Donc voilà un exemple de potentiel chimique lié au coefficient d'interaction, c'est l'énergie par atome associée à ce GA moins GBB. Et puis, on verra intervenir un petit peu plus tard un autre coefficient qui est également pertinent pour décrire ces mélanges, qui est la différence entre la moyenne géométrique de GA plus GBB et puis le coefficient interespèce GAB. Ça, c'est l'énergie que je dois payer quand je fais passer, quand j'ai un mélange 50-50 de A et de B, toujours au même endroit, et puis je change un petit peu la composition, je fais passer un petit peu d'atomes de B dans A ou le contraire. Voilà. Donc, mon hypothèse, ça va être que ces énergies liées au spin, ce que j'ai appelé de manière un petit peu schématique potentiel chimique, que ces énergies par particule liées au spin, donc GA moins GBB ou cette différence-là, elles sont petites devant toutes les fréquences d'oscillation du piège. Et quand c'est vrai, eh bien, je n'ai pas à me soucier d'exciter ces degrés de liberté de vibration du piège. Ils vont rester dans leur état fondamental. Voilà. Alors, une fois qu'on a ça, eh bien, on va donc essayer de voir quels sont les bons outils pour décrire notre système de N particules. Et là encore, je vais repasser au tableau. Et il va falloir qu'on commence par préciser l'espace de Hilbert dans lequel on va travailler et puis se donner les bons outils, c'est-à-dire les bons opérateurs pour explorer cet espace de Hilbert et décrire donc la manière dont les atomes interagissent entre eux à cette approximation du mode spatial unique. Donc je commence par préciser l'espace de Hilbert. Donc cette fois-ci, on a un espace de Hilbert à n particules. Et cet espace de Hilbert à n particules, eh bien, pour spécifier les différents états possibles dans cet espace à n particules, eh bien, je peux choisir une base où je précise combien j'ai d'atomes dans l'état A et combien j'ai d'atomes dans l'état B, sachant que la somme est fixée, c'est grand N, elle ne va pas jamais varier. Donc, une base possible de cet espace de Hilbert, c'est les états nombres NA, NB, où NA désigne donc le nombre d'atomes dans l'état A et NB désigne le nombre d'atomes dans l'état B. Donc, NA plus NB, comme je disais, est égal à grand N. Donc, ce NA, NB, eh bien, je vais le choisir dans l'ensemble qui consiste à prendre, par exemple, tous les atomes dans A et 0 atomes dans B, donc N0. Ensuite, je peux en mettre N-1 dans A et puis un atome dans B, jusqu'à eh bien, l'état 0N, où là j'ai mis 0 atome dans A et tous les atomes dans B. Donc combien il y a d'états au total? Eh bien, si vous dénombrez ça, il y a N plus 1 état. Donc je vais travailler dans un espace de dimension N plus 1. Voilà. Et après, je serai libre de prendre une autre base dans cet espace. Mais je suis dans cet espace de dimension N plus 1. Et ce qui va me permettre de naviguer dans cet espace, eh bien, ce sont ce qu'on appelle les opérateurs création et destruction. Je peux créer une particule dans l'état A, je peux détruire une particule dans l'état A, je peux créer une particule dans l'état B ou en détruire une. Alors, je vous donne juste un exemple. L'opérateur accroît, qui est donc l'opérateur création d'une particule dans l'état A, eh bien, cet opérateur, quand il agit sur un des états de base NA, NB, ce qu'il fait, c'est qu'il me monte le NA, il me fait passer de NA à NA plus 1, tout en gardant le nombre de particules dans l'état B constant. Et il y a un coefficient qui vient se mettre devant, qui est racine de NA plus 1, coefficient de normalisation. Donc l'opérateur accroît me fait sortir de l'espace à N particules, hein, puisqu'il crée une particule dans l'état A sans rien faire à B. Donc il faudra toujours associer un opérateur création A à un opérateur destruction B, sinon on sortirait de l'espace, mais bon, ça va venir dans un instant. Voilà, donc ça c'est l'opérateur accroît. Ben, de la même façon, l'opérateur A me ferait passer de NA à NA moins 1, et l'opérateur B croît me ferait passer de B à B, NB plus 1, etc. Bien, donc ça ce sont les opérateurs destruction et création qui vont être les briques de base pour générer l'algèbre d'opérateurs dans mon espace. Et donc, à quoi ressemble maintenant mon couplage entre l'atome et le rayonnement? Donc mon Hamiltonien, que je vais qualifier d'Hamiltonien cohérent pour commencer, c'est-à-dire que pour commencer, je ne prends pas en compte les interactions entre atomes, je me contente de réécrire, j'ai supposé que mes atomes sont indépendants les uns des autres, mais je vais me contenter de réécrire avec ces opérateurs création et destruction ce que je sais sur un atome unique, c'est-à-dire cette chose-là. Donc, c'est un Hamiltonien cohérent, que je vais appeler H, indice cohérent. Eh bien, il a deux parties, hein. Il a la partie liée au couplage lui-même, avec la fréquence de Rabi oméga, et puis une partie liée au désaccord. Donc la partie liée au couplage, donc, qui est moins h bar oméga sur 2, je peux le lire ici, moins h bar oméga sur 2, quelque chose qui me fait passer de l'état B à l'état A, et puis ici j'ai aussi moins h bar oméga 0, moins h bar oméga sur 2, que je passe de l'état A à l'état B. Donc les opérateurs que je dois mettre en termes de création et destruction, c'est simplement les opérateurs A fois B croix. Je détruis une particule dans B, j'en crée. Pardon, je crée une particule dans B en en détruisant une dans A. Donc ça fait bien passer de B à A. Non, ça fait passer de A à B, puisque je détruis dans A et je crée dans B, excusez-moi. Plus A croix B, qui est l'hermétique conjuguée. Cette fois-ci, je crée dans A et je détruis dans B. Ça, c'est donc la version second quantifié du terme en moins h bar oméga sx. Et puis j'ai le terme de désaccord, qui est donc moins h bar delta sur 2 pour les particules dans l'état A, plus h bar delta sur 2 pour les particules dans l'état B. Et donc ça, je vais l'écrire, donc moins h bar delta sur 2, un terme qui compte le nombre de particules dans l'état A, qui est donc simplement A croix A, moins un terme qui compte le nombre de particules dans l'état B, qui est B croix B. Voilà. Donc, ça, si vous êtes familier avec seconde quantification, c'est vraiment une réécriture, mot à mot, en version seconde quantification de cet opérateur à une particule. Hein, rien d'original. Bien. Alors, maintenant, on arrive à ce que j'ai appelé la représentation de Schwinger avec cette algèbre de moments cinétiques. J'ai fait apparaître pour mon atome à deux niveaux ici cette représentation avec des SX et des SZ, qui était donc une algèbre de moments cinétiques, mais un moment cinétique très simple, c'est un spin and miss simplement. Donc là, on va faire la même chose, mais on va le faire pour un moment cinétique donc plus grand, pour prendre en compte les N atomes. Alors, représentation de Schwinger. Et je vais introduire donc trois opérateurs que je vais appeler Jx, Jy et Jz, pressentant que ce sont des opérateurs de moment cinétique. Jx, ça va être 1 demi du terme que j'ai vu apparaître ici, en fait, AB croix plus A croix B. Jy, ça va être I sur 2 fois la différence de ces termes-ci, AB croix moins A croix B. Il va falloir que je vérifie mon signe cette fois-ci, parce que j'ai une différence. Oui, c'est bien ça. Quant à Jz, c'est l'autre terme que j'ai vu apparaître ici, 1 demi de A croix A moins B croix B. Voilà. Donc, ça, c'est une définition. Et je les ai appelés grand J, donc, qui rappellent l'idée que ça peut être un moment cinétique. Est-ce que c'en est bien ? Eh bien, oui, vous pouvez vérifier que ces trois opérateurs vérifient bien les relations de commutation canoniques pour un moment cinétique. C'est-à-dire que si je prends, par exemple, X et Y, si je prends le commutateur de Jx avec Jy, eh bien, ça, c'est égal à I fois Jz. Et vous pouvez avoir vérifié aussi les deux autres relations déduites par permutation circulaire. Donc, j'ai bien construit comme ça un opérateur moment cinétique et c'est avec lui, finalement, qu'on va travailler. Et on va voir que c'est une généralisation, ce qu'on va obtenir, ce seront des générations directes de ce que j'ai écrit ici avec les SX et les SZ. Alors, pour ceux qui connaissent la théorie du moment cinétique, dès qu'on développe comme ça un moment cinétique, la première chose à faire, c'est regarder, s'intéresser à l'opérateur carré du moment cinétique pour savoir dans quel espace on travaille. Donc le carré du moment cinétique, ici, J carré, qui est donc Jx carré plus Jy carré plus Jz carré, ben, vous pouvez faire le calcul, alors c'est un calcul un petit peu longué, hein, mais bon, on y arrive, et on arrive au résultat suivant, c'est que ce J carré, eh bien, c'est une constante, et cette constante, c'est simplement n sur 2 fois n sur 2 plus 1. Donc cette chose-là, ça peut s'écrire sous la forme Jj plus 1, qui est bien la forme qu'on attend pour le carré d'un opérateur moment cinétique quand il est quand on travaille dans un sous-espace propre de ce J carré, avec simplement grand J égale n sur 2. Donc, la morale de l'histoire, c'est qu'on va pouvoir travailler avec cette algèbre de moment cinétique en travaillant dans le sous-espace propre de J carré qui est directement relié au nombre de particules, J égale n sur 2, et on va réécrire nos opérateurs comme l'hamiltonien cohérent, mais également l'opérateur qui décrira les interactions entre particules, on va le réécrire à l'aide de ces opérateurs Jx, Jy, Jz. Alors, j'insiste bien que j'ai pas fait grand-chose d'original. Hein. Je me suis simplement contenté de redéfinir des observables. C'est-à-dire que le H cohérent qui est ici, eh bien, vous pouvez le mettre sous la forme, simplement réécriture, sous la forme, donc là je reconnais le Jx, donc moins H bar oméga sur 2, Jx, moins H bar delta sur 2, Jz. C'est juste une réécriture. Et cette réécriture au niveau des opérateurs, c'est également une réécriture au niveau des vecteurs de base. Là, je vous ai remis les vecteurs de base que j'avais introduits au tableau, ici. Donc, dans le point de vue nombre de particules, donc le point de vue NA, NB, ici, eh bien, vous avez les N plus 1 états que j'ai écrits au tableau. Celui en haut, c'est N0, toutes les particules dans A, 0 dans B. Puis ensuite, N moins 1 particule dans A, 1 particule dans B, jusqu'à 0 particules dans A, n particules dans B, donc c'est mes n plus 1 états, eh bien, ces ces n plus 1 états, je peux très bien les cataloguer, leur redonner un autre nom, sous forme d'états propres de l'opérateur carré du moment cinétique grand J, qui vaut donc toujours n sur 2, et puis projection du moment cinétique sur l'axe Z, donc je note le nom quantique, je le note MZ, sachant que l'opérateur JZ, eh bien, c'est celui qui est écrit ici, hein, c'est 1,5 de A croix A, c'est-à-dire le nombre de particules dans A moins B croix B, le nombre de particules dans B. Et donc si je prends l'état du haut ici, eh bien N1 moins NB, ça vaut N fois 1,5, donc JZ est égal à J. Ensuite, vous avez l'état JJ moins 1, l'état jusqu'en bas, vous avez ici l'état J moins J. Il y a 2J plus 1 état dans l'état propre dans le sous-espace propre du carré du moment cinétique. Et 2J plus 1 état, ben c'est bien égal à N plus 1 état puisque J est égal à N sur 2. Donc, encore une fois, il n'y a aucun mystère. Hein, c'est juste une réindexation, si vous voulez, mais une réindexation qui va s'avérer très commode. Alors, maintenant, il s'agit de prendre en compte la richesse apportée par le fait qu'on a mis grand N atomes, c'est-à-dire que ces atomes vont interagir entre eux. Sinon, ça ne vaudrait pas le coup, on aurait simplement réécrit ce qui se passait pour un atome avec des notations différentes. Donc, il va s'agir maintenant de prendre en compte les interactions. Donc, déjà, commençons par le cas où il y a un seul état interne. C'est-à-dire, je reviens en arrière, dans les cours qu'on a fait jusqu'à maintenant, j'ai un seul état interne et je suppose que je mets tous mes atomes dans la même fonction d'onde phi de R. À ce moment-là, quelle est l'énergie d'interaction? Quelle est sa structure? Je vais faire une approximation de champ moyen. De façon très générale, dans cette approximation de champ moyen, si j'ai un potentiel V de R moins R' qui me décrit l'interaction entre deux atomes, eh bien l'énergie d'interaction, c'est la manière dont un petit volume D3R interagit avec un petit volume D3R'. Donc je dois faire 1,5 de l'intégrale sur R et sur R', rho de R', V de R moins R', D3R, D3R'. Je mets 1,5 ici parce qu'il faut que je compte qu'une seule fois l'interaction entre ce petit volume D3R et ce petit volume D3R'. Donc le 1,5 est là pour éviter le double comptage où je change R et R'. Donc la densité, rho de R, c'est la densité au point R qui, si je connais ma fonction d'onde grand phi qui est normalisée à l'unité, eh bien, cette densité au point R, simplement grand N fois phi de R en module au carré. Si je prends, comme c'est le cas pour ce qu'on va voir dans ce cours, des interactions locales, je peux remplacer V de R moins R' par G fois la distribution de Dirac, delta de R moins R'. Et à ce moment-là, eh bien, la double intégrale sur R' devient une simple intégrale sur R. Je remplace rho par N fois phi carré. Donc ici, comme j'ai un delta de R moins R', je vais avoir rho carré, donc N carré fois phi 4. Donc je me retrouve avec un préfacteur ici, 1,5 de G fois N carré, fois l'intégrale de phi puissance 4, et je vais noter cette intégrale de i phi puissance 4, ce i calligraphié là, il a la dimension de 1 sur un volume, ça c'est simple à comprendre, cette intégrale-ci est sans dimension, d3r c'est un volume, donc phi carré c'est 1 sur un volume, et donc quand vous prenez l'intégrale de phi 4 d3r, eh bien, il vous reste un volume au dénominateur, et donc quand il n'y a qu'un seul état interne, bilan des courses, je peux l'encadrer, donc, mon énergie d'interaction, c'est 1,5 de l'intégrale grand I fois petit g fois n carré. Question, qu'est-ce que ça devient si maintenant je ne mets pas un seul état interne dans mon volume ici, mais deux états internes, A et B, avec des constantes d'interaction a priori différentes, AA, BB et AB. Donc on va repartir du résultat qu'on vient de trouver pour le cas où il y a un seul état interne, mais on va prendre une génération naturelle de ce résultat. Donc, cet Hamiltonien interne, H interne, pour l'énergie d'interaction, pour H interaction, oui, enfin interaction et interne, d'ailleurs les deux à la fois, donc ça va être une génération de ce 1,5 de IGN2, sachant que j'ai plusieurs G possibles, j'en ai trois, j'ai AA, j'ai BB, j'ai AB, et puis grand N, eh bien, c'est soit NA, soit NB. Donc, je vais mettre ça sous la forme 1,5 de i. Ça, l'intégrale, elle reste la même, puisque j'ai toujours la même fonction de spatiale. Et puis, je vais avoir les interactions entre particules A, entre elles. Donc, ça va être 1,5 de g à n a carré. C'est ce qui remplace le g n carré tout à l'heure. Je vais avoir les interactions bb, nb carré. Et puis, je vais avoir les interactions ab, Alors, les interactions AB, elles n'ont pas de facteur 1,5, puisque là, je compte combien j'ai de A et je compte combien j'ai de P, et puis je me contente de calculer combien elles interagissent. Donc là, je vais avoir I fois GAB fois NANB. Voilà. Et comme je fais un traitement quantique, donc là, ce sera l'opérateur NA carré, l'opérateur NB carré et les opérateurs NA et NB. Voilà. Donc, c'est ça que j'aimerais simplifier le plus possible pour l'exprimer en termes d'opérateurs du moment cinétique. Et ensuite, eh bien, le but du jeu sera de voir si on retrouve bien une jonction Wesson avec tout ça. Donc, NA, opérateur NA, qui est donc l'opérateur A croix A, je peux l'écrire en termes de l'opérateur moment cinétique ici, JZ, et en termes du nombre total de particules, puisque JZ c'est NA moins NB, et que NA plus NB est égal à grand N, ce NA, je peux l'écrire N sur 2 plus JZ. Alors N sur 2, je ne mets pas de chapeau, parce que N est une constante, hein, c'est N fois l'identité. NB, qui est égal à B croix B, c'est N sur 2 moins JZ. Et donc, ce que je vais faire, c'est reporter ces expressions dans l'expression de H int. Et je vais donc identifier des termes. Alors, on voit qu'il va y avoir trois types de termes. Quand je vais évaluer les carrés ici, de NA carré, de NB carré, ou le produit NANB, je vais avoir des termes qui feront intervenir que grand N, qui vont être constants. On les oubliera dans la suite, mais je vais quand même les écrire pour une fois. On aura des termes croisés, des termes linéaires en JZ, et puis on aura des termes quadratiques en JZ. Donc, allons-y. H1, c'est... Donc, un premier terme qui va être un terme indépendant de JZ, donc où je prends simplement le terme N sur 2, ici. Donc, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir GAA fois N carré sur 4, GBB fois N carré sur 4, et puis j'aurai du GAB fois, encore une fois, N carré sur 4. Donc ça, je vais le mettre sous la forme 1/2 de I, une quantité que je vais appeler G bar, et puis N carré. Alors G bar, avec cette définition, ça vaut quoi? Eh bien, ça vaut les GAA, GBB qui sortent, donc ça vaut 1 quart, puisqu'on a vu ce qui sortait, c'est N carré sur 4, donc je mets le 1 quart ici, et puis je vais sortir GAA plus GBB, plus, alors je crois que c'est deux fois, oui c'est bien ça, deux fois GAB qui sort, simplement deux parce que lui n'a pas de 1,5 devant lui. Ça c'est le premier terme. Ensuite j'ai un terme qui va être linéaire en JZ. Et ce terme linéaire en JZ, je vais choisir de mettre son préfacteur sous une forme H-bar fois un désaccord, parce que en fait j'ai déjà un terme linéaire en JZ ici. Et donc je vais essayer de lui mettre un préfacteur de la même structure pour pouvoir ensuite les additionner quand on voudra l'hamiltonien total. Donc ce terme linéaire en JZ, je l'écris sous la forme plus H bar delta int JZ, ou delta int, qu'est-ce que ça vaut? C'est même H bar delta int que je peux écrire. H bar delta int, eh bien c'est donc le préfacteur de JZ quand je remplace NA et NB par leur valeur. Donc, pour NA carré, ce sera le double produit N sur 2 fois JZ, fois 2, donc NJZ. Et pour NB carré, ce sera moins NJZ, puisque je passe plus en moins. Donc, je vais sortir un GAA moins GBB. Dans celui-ci, il n'y a pas de terme linéaire en JZ. Quand vous faites le produit N sur 2 plus JZ, N sur 2 moins JZ, c'est la formule A plus B, facteur de A moins B, ça vous donne du A2 moins B2. Il n'y a pas de terme linéaire en A et B. Donc, H bar delta 1 fait simplement intervenir la différence entre GAA et GBB, avec un coefficient donc, qui est 1/2 de toujours cette intégrale I, grand N, et puis donc ces différences GAA moins GBB. Et puis, j'ai mon dernier terme, et ce dernier terme, donc, il est en JZ carré, et lui, son préfacteur, parce que j'ai de la préscience, je vais l'appeler EC, plus précisément EC sur 2, parce qu'on va voir dans quelques minutes que c'est la même chose que l'énergie de charge qu'on avait vu apparaître avant pour notre jonction Wesson. Donc ça, c'est EC, JZ carré. Et EC, qu'est-ce que ça vaut? Eh bien, c'est le coefficient du terme en JZ carré.
Donc, on recommence. Je vais avoir un terme en GA ici, qui va venir de quand je vais remplacer NA par sa valeur. Donc, GAA. Je vais avoir un plus GBB, ce sera le plus JZ carré qui vient d'ici. Et puis là, quand je fais le produit NANB, ce que je sors, c'est donc du moins JZ carré. Donc, je vais sortir du GAA plus GBB moins deux fois GAB, avec toujours un préfacteur qu'il faut prendre. Et donc, EC, c'est, si je ne me trompe pas, I fois GAA plus GBB moins deux fois GAB. Voilà. Donc ça, ce sont les trois coefficients qui rentrent dans mon Hamiltonien interaction. Et donc, une fois que j'ai ça, eh bien, je peux écrire l'Hamiltonien total. L'Hamiltonien total en tâche pour cette jonction interne, c'est la somme de l'Hamiltonien interne et du couplage cohérent qui est écrit ici. Donc, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir du moins h bar oméga j, il n'y a pas de 6 sur 2. Il n'y a pas de 2? Il n'y a pas de 2. Pourquoi il n'y a pas de 2? Ah ben oui, pardon. Effectivement, merci Jérôme, il n'y a pas de 2 parce que j'ai mis le 1,5 devant. Oui, il n'y a pas de 2. Oh là là. Allez, je vais le rayer en rouge pour que ce soit bien clair qu'il faut le rayer. Il n'y a pas de 2. Voilà. Il n'y a pas de 2 non plus là. D'accord. Bon, donc il n'y a pas de 2 non plus ici. Oui, je vais l'effacer carrément. Ce n'est pas la peine de laisser. Donc, moins h bar oméga jx. Ensuite, j'ai ce moins h bar delta jz que je vais regrouper avec le delta int. J'aurai ce terme constant à mettre, mais ce terme constant, lui, on va l'oublier, puisque comme c'est une constante, l'énergie définit une constante près, tout comme l'Hamiltonien. Donc, c'est pas qu'il est nul, mais simplement, comme il est constant, je l'oublie. Donc, je regroupe le moins h bar delta jz avec mon delta int qui est ici. Donc, je vais écrire ça sous la forme moins h bar delta tilde jz, où je pose delta tilde qui est égal à delta moins delta int. Et puis, il me reste plus EC sur 2, JZ carré. Voilà, et ça, c'est l'Hamiltonien, donc, de ma jonction interne. Moyennant, donc, une constante additive frais. Voilà, et c'est avec ça qu'on va travailler à partir de maintenant. Alors, je ne sais pas si ça... Ou non, je sais, je n'avais pas écrit le résultat ici, mais... Voilà. Voilà, donc là je l'ai remis là. J'ai remis les termes qu'on vient d'additionner. Le terme avec le couplage cohérent, sans le facteur 2. Donc au moins sur les notes, sur la diapositive, c'est bon. L'interaction d'atomes qu'on a vu ensemble à la constante additive près, et donc cet Hamiltonien-là. Cet Hamiltonien-là, il a un nom, c'est l'Hamiltonien de Lipkin, Meshkov et Glick. C'est un Hamiltonien qui a été introduit dans les années 60 en physique nucléaire essentiellement. L'idée de cet Hamiltonien, de ceux qui l'ont introduit, c'était pour tester différentes méthodes d'approximation en physique nucléaire. Donc c'est un Hamiltonien qui a connu pas mal de... Beaucoup, il y a eu beaucoup d'études dessus, et puis il a été réalisé dans de multiples situations. Une situation récente, hein, c'est une expérience qui a été faite ici même au Collège de France, dans le groupe de Sylvain Nassimben et Raphaël Lopez, sur un atome de grand moment sciétique, le dysprosium. Donc ils avaient un J égale 8, et ils ont pu vérifier les états propres de cet Hamiltonien et mettre en évidence une dynamique intéressante. Voilà, bon, je ne vais pas rentrer dans les détails ici. Voilà, donc ça termine ce que je voulais vous dire sur la mise en place du formalisme. Et maintenant, donc, j'aimerais qu'on revienne à notre jonction Jeffson et qu'on vérifie que, avec cet Hamiltonien qui est écrit ici, qui pour l'instant est un Hamiltonien quantique, hein, eh bien, je suis capable de retrouver la dynamique d'une jonction Josephson. Et pour ça, il va falloir passer de la dynamique quantique avec des opérateurs à la dynamique classique. Alors, comment est-ce qu'on fait quand on a un opérateur quantique et qu'on voudrait vérifier que cet opérateur quantique, sa dynamique, permet bien de retrouver ce qu'on sait de la physique classique? Il y a plusieurs méthodes pour faire ça. Une des méthodes qui me semble la plus... parlante, c'est de passer au point de vue de Heisenberg. Le point de vue de Heisenberg, je vous rappelle à quoi ça consiste. Ça consiste à prendre, se donner un état initial, grand psi, qu'il faut bien choisir, et qui va rester fixé. Il ne va pas évoluer dans le temps. Ce qui va évoluer, ce sont les opérateurs.
les observables, les quantités qui décrivent les quantités physiques pertinentes sur notre système. En l'occurrence, ce sera les composants du moment statique grand J. Et l'équation d'évolution des opérateurs, en point de vue de Heisenberg, eh bien, c'est la suivante, c'est IH bar, la dérivée par rapport au temps de cet opérateur, est égale au commutateur de l'opérateur en question avec l'hamiltonien. Et une fois que vous avez écrit ces équations de Heisenberg, eh bien, vous prenez les valeurs moyennes, et donc vous avez l'évolution de la valeur moyenne, de la quantité physique, si vous voulez, valeur moyenne de O, en fonction d'autres opérateurs, et il s'agit de regarder si ces évolutions font sens au sens classique du terme, puisque les valeurs moyennes sont des nombres, est-ce qu'on retrouve avec l'évolution temporelle de ces nombres ce à quoi on est habitué en physique classique. Alors c'est ça qu'on va faire avec notre jonction Jeffson. Peut-être qu'avant, en deux minutes, je peux rappeler comment est-ce que ça marche, par exemple, pour une particule en mouvement dans un potentiel V de x. Le problème le plus simple qu'on connaisse en physique, finalement, c'est le problème de Newton. Est-ce que quand je prends l'hamiltonien quantique et que je fais cette procédure-là, est-ce que je retrouve les équations de Newton classiques? Eh bien, la réponse, c'est ça dépend, et on va voir pourquoi ça dépend. Donc, faire ensemble, ça va pas prendre beaucoup de temps. Donc, je pars du problème quantique d'une particule donc, de masse m dans un potentiel V de x, donc l'hamiltonien grand H, que j'écris somme de l'énergie cinétique p carré sur 2m plus l'énergie potentielle v de x. P, c'est l'opérateur impulsion de ma particule. X, c'est l'opérateur position. Donc avec les relations de commutation, xp égale ih bar. Et si j'applique le programme que je me suis fixé, eh bien je commence par mes équations de Heisenberg, et donc j'écris la dérivée de l'opérateur position par rapport au temps, qui va donc être le commutateur de cet opérateur position x avec l'hamiltonien. X commute avec v de x, bien sûr, mais il ne commute pas avec p carré sur 2m, et donc je dois utiliser mon commutateur qui est là, et quand je fais le calcul, je trouve que dx sur dt, c'est p sur m. P sur m, c'est l'opérateur impulsion divisé par la masse, donc c'est ce que je peux appeler l'opérateur vitesse. Je trouve donc que la dérivée de la position par rapport au temps, c'est la vitesse. Au niveau des opérateurs, ce stade, tout va bien. Je confonds ici impulsion et quantité de mouvement, hein, parce que je n'ai pas mis de potentiel vecteur ici, donc là, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Si maintenant je regarde la dérivée de l'opérateur impulsion, dp sur dt, p va commuter avec p carré, en revanche, il ne commute pas avec v, et donc ce qui sort, c'est moins d de v sur dx, v pris comme ça, que je peux appeler opérateur force, f de x chapeau. Voilà, donc à ce stade, j'ai simplement écrit mes équations d'évolution de Heisenberg. Maintenant, je vais prendre les valeurs moyennes. Donc la première équation, je vais donc écrire que d de valeur moyenne de x sur dt est égal à la valeur moyenne de p sur m. Bon, là, tout va bien. La deuxième équation, je vais donc dire que d de p sur dt est égal à la valeur moyenne de f de x. Et c'est là que les choses peuvent bien se passer ou mal se passer, ça dépend. Pour fixer les idées, supposons que la force f de x, je puisse la développer en puissance de x, je suis au voisinage d'un point d'équilibre par exemple, et je m'intéresse aux deux premiers termes du développement. Donc je suppose que ma force f de x, je peux l'écrire alpha x plus bêta x carré. Quand je vais prendre la valeur moyenne de f de x, je vais sortir alpha valeur moyenne de x plus bêta valeur moyenne de x carré. Alors si j'ai simplement alpha valeur moyenne de x, eh bien là tout va bien, puisque j'ai un système d'équations qui va être d de valeur moyenne de x sur dt égale p sur m, d de valeur moyenne de p sur dt, dérivée de p par rapport au temps égale alpha valeur moyenne de x, j'ai un système d'équations fermé en valeur moyenne de x et valeur moyenne de p que je peux résoudre, c'est simplement un oscillateur harmonique, et je trouve donc que l'oscillateur harmonique quantique et l'oscillateur harmonique classique se décalquent bien l'un sur l'autre, il n'y a aucun souci. D'accord ? Maintenant, si j'ai un terme anharmonique comme celui-ci, vous voyez que j'ai affaire, je trouve valeur moyenne de x2. Et du coup, mon système n'est plus fermé, puisque j'ai une troisième quantité qui est valeur moyenne de x carré qui vient s'introduire dans mon système d'équation. Et si j'écris maintenant, en point de vue d'Heisenberg, l'évolution de valeur moyenne de x2, ben je vais sortir du x3, etc. Donc, je ne vais pas m'en sortir. Sauf si, et là, ça, tout dépend de l'étape psi que j'ai pris initiale, sauf si ça, c'est à peu près égal à la valeur moyenne de x au carré. Auquel cas, si j'ai le droit de remplacer la valeur moyenne de x2, c'est-à-dire la valeur moyenne du carré, par le carré de la valeur moyenne, eh bien, je récupère un système fermé pour valeur moyenne de x et valeur moyenne de p, et je peux résoudre mes équations classiques et les comparer et vérifier que classique et quantique coïncident à peu près. Donc, toute cette approximation semi-classique, enfin ce passage de la physique quantique à la physique classique, dépend des états sur lesquels on moyenne. Si je prends mon état psi que je me suis fixé, il est tel qu'effectivement la valeur moyenne du carré est proche du carré de la valeur moyenne, eh bien je vais retrouver un comportement pour les valeurs moyennes, conforme à ce que j'attends classiquement. En revanche, si les deux quantités diffèrent beaucoup, si la valeur moyenne de x2 est très différente du carré de la valeur moyenne de x, eh bien là, la dynamique classique et la dynamique quantique n'auront rien à voir l'une avec l'autre. Voilà, donc c'est l'idée de passer de la physique quantique à la physique classique, ça dépend beaucoup de l'état dans lequel on prépare, et ça repose bien souvent sur cette idée de finalement décorréler des opérateurs ou remplacer des produits de valeur moyenne par des valeurs moyennes de produits. C'est exactement ce qui va se passer pour notre Hamiltonien LMG et pour donc cette jonction Josephson interne. L'Hamiltonien, je l'ai réécrit, il est ici, c'est le même que j'espère que celui qui est écrit au tableau. Et j'applique donc mon équation d'évolution de Heisenberg qui est ici à chacune des trois composantes Jx, Y, Jz de moment cinétique en utilisant les relations de commutation que je vous avais données tout à l'heure, Jx commutateur avec Y égale Jz, etc. Donc là, il n'y a qu'à tourner la manivelle, hein, c'est simple. Djx sur dt, eh bien, je vais devoir prendre le commutateur de Jx avec cet Hamiltonien, donc Jx commute avec lui-même. Jx ne commute pas avec Jz, mais va me donner du Jy, donc je vais sortir le delta bar Jy, et puis là j'ai un carré, donc là c'est un peu plus compliqué, je vais prendre le commutateur de Jx avec Jz carré, et ça me sort un produit Jyjz plus Jzjy. Et puis on fait la même chose pour les deux autres composantes, il ne faut pas se tromper dans les signes, mais bon, après quelques essais, on y arrive. Et on a donc ces trois équations. Maintenant, on va prendre les valeurs moyennes, et on voit que on retrouve un problème vraiment similaire à celui que j'avais mentionné ici. C'est-à-dire que j'ai des termes qui sont linéaires en Jx, Jy, Jz, donc pour eux tout va bien se passer. Moi, je vais garder un système d'équations fermé sur mes valeurs moyennes de moment cinétique, mais je vais également sortir des valeurs moyennes des produits Jy, Jz ou des produits Jx, Jz. Et si je veux garder un système fermé, il faut que j'ai le droit de dire que la valeur moyenne du produit est à peu près égale au produit des valeurs moyennes. Question ? Est-ce qu'il y a des états pour lesquels c'est vrai? Si oui, lesquels? Et puis, quels sont ceux pour lesquels ce n'est pas vrai? Pour mettre des garde-fous. Alors, quelle est la réponse à cette question? Eh bien, je vais l'esquisser, cette réponse, et puis on l'approfondira la semaine prochaine. Donc, question, quand est-ce qu'on peut avoir cette valeur moyenne du produit à peu près égale au produit des valeurs moyennes? Donc, je me place dans le cas d'un grand nombre de particules. Hein, J, c'est grand N sur 2, c'est grand devant 1. Donc, je sais que le carré du moment cinétique, c'est Jj plus 1, et là, je vais pouvoir dire que ce carré du moment cinétique, Jj plus 1, n'est pas égal à J2. Donc ça va me permettre tout de suite de donner une condition nécessaire pour que je puisse remplacer les produits de valeur moyenne par les valeurs du produit. Si cette hypothèse-là est vérifiée, eh bien en particulier, elle va s'appliquer aux Jx, Jy et Jz, c'est-à-dire que je sais que Jx carré plus Jy carré plus Jz carré, c'est égal à J carré, où J égale N sur 2. Donc, quand je remplace les valeurs moyennes des carrés par les carrés des valeurs moyennes, je vais avoir une valeur moyenne de Jx élevée au carré plus valeur moyenne de Jy élevée au carré plus valeur moyenne de Jz élevée au carré doit être également à peu près égale à J2. Question, quels sont les états pour lesquels c'est vrai? Ben, je peux vous en proposer un pour lequel c'est vrai. Si je prends les états tels que J, donc la valeur du moment cinétique, du carré du moment cinétique vaut Jj plus 1, et la projection du moment cinétique selon l'axe Z, Mz, est égale elle-même à J, ou à moins J, à ce moment-là, Jz, sa valeur moyenne, ce sera J, ou plus ou moins J, donc le carré vaudra J2, Valeur moyenne de Jx vaudra 0, valeur moyenne de Jy vaudra 0, donc cette égalité est bien vérifiée. Donc l'état initial qui est écrit ici satisfait bien au moins cette condition nécessaire. Plus généralement, si je prends ce qu'on appelle un état cohérent de spin, un état cohérent de spin, c'est un peu la même chose que le premier, sauf que maintenant je prends un axe de quantification qui est quelconque, je l'appelle petit u, c'est un vecteur unitaire qui pointe quelque part dans l'espace, et je prends un état de spin tel que la projection de la composante du moment sciatique selon u est égale à sa valeur extrémale, plus j ou moins j. C'est ça un état cohérent de spin. Eh bien, si je prends ça, on peut vérifier que là encore, cette égalité-là, ou cette quasi-égalité, est vérifiée. Donc, pour tous les états cohérents de spin, c'est-à-dire les états qui sont alignés finalement avec un axe, pour lequel le moment cinétique est aligné avec un axe, eh bien là, je vais pouvoir appliquer cette hypothèse. J'ai dit que c'est une condition nécessaire, mais en fait, elle sera suffisante. En revanche, il y a des états pour lesquels ça ne marche pas du tout. Si vous prenez l'état JMZ égale 0, dont on verra la semaine prochaine que c'est un état hautement non classique, eh bien cet état-là, quand vous prenez la valeur moyenne de Jx dans cet état, eh bien vous trouvez 0, valeur moyenne de Jy, vous trouvez 0, valeur moyenne de Jz, vous trouvez 0. Donc le membre de gauche ici égal à 0, il est très très différent du J carré qu'on attend. Donc pour un état qui est comme celui-ci, encore une fois un état hautement non classique, eh bien là, l'approximation que je propose n'est pas valable du tout. Donc on va se restreindre aux états cohérents de spin, cette classe d'états ici, et pour eux, eh bien, on va remplacer les valeurs moyennes des produits par les produits de valeurs moyennes. Donc à ce moment-là, eh bien, j'ai un système d'équations qui portent sur trois nombres maintenant, qui sont ces Jx, Jy et Jz. Il n'y a plus de chapeau, ce sont simplement les valeurs moyennes des opérateurs. Voilà. Et ça, eh bien, je prétends que ça, c'est les équations d'une jonction Josephson. Alors vous ne reconnaissez peut-être pas ce qu'avait écrit Josephson en 1962, mais on va le vérifier ensemble. Pour ça, il va falloir remplacer ces Jx, Jy, Jz par nos quantités favorites. Cette quantité favorite, je vous rappelle ce que c'est petit n, le déséquilibre de la jonction, et puis phi, la phase de la jonction. Alors petit n, ben en fait, on l'a. Petit n, finalement, c'est jamais rien d'autre que Jz, puisque je vous rappelle que l'opérateur Jz lui-même, c'est la différence entre l'opérateur nombre de particules en A moins le nombre de particules en B. Et petit n, eh bien, il est toujours défini comme ça. Petit n, je vous rappelle qu'on a souvent écrit cette équation-là, c'est à l'époque pour les quantités classiques, mais na sur 2 plus n et nb égale n sur 2 moins n. Donc le 1,5 de na moins nb, eh bien, c'est bien ce petit n-là. Donc pour retrouver l'équation de la jonction Josephson, je vais simplement remplacer partout jz par n. Évidemment, ça ne suffit pas, puisqu'il faut aussi que je trouve quelque chose de bien pour Jx et Jy. Alors, comment faire ça? Eh bien, comme on travaille avec des états qui sont des états cohérents de spin, je sais que la somme des carrés Jx carré plus Jy carré plus Jz carré est égale à n2 sur 4, J carré. Donc, comme Jz est égal à n, ce Jx carré plus Jy carré, je peux l'écrire sous la forme n2 sur 4 moins Jz carré, ou encore, en mettant n2 sur 4 en facteur, n2 sur 4, 1 moins 4 petit n2 sur grand n2. Et là, si vous avez une bonne mémoire, vous vous rappelez du coefficient gamma de n que j'ai introduit dans les cours précédents. Et ça, c'est jamais rien d'autre que le carré du coefficient gamma de n. Donc, j'ai mon jx carré plus jy carré, c'est simplement n2 sur 4 fois gamma carré de n. Et ça, ça m'indique une paramétrisation possible de jx et de jy. Je vais pouvoir dire que jx, c'est n sur 2 gamma de n fois le cosinus d'un angle, et jy, c'est n sur 2 fois gamma de n fois le sinus d'un angle. Comme ça, la somme de leurs carrés fera bien cette quantité n2 sur 4 gamma 2 de n. Et cet angle, eh bien, c'est rien d'autre que la phase de la jonction Josephson, au signe près. C'est-à-dire que je dois mettre cosinus phi ici et moins sinus phi là. Et ce que je prétends, c'est que quand on fait ça, eh bien, on retrouve exactement les équations de la jonction Josephson, c'est ce qu'on va voir dans un instant. Juste un mot sur une visualisation géométrique. J'avais introduit la sphère de Bloch tout à l'heure pour un atome à deux niveaux. Et bien là, je peux faire la même chose pour les valeurs moyennes de ce moment cinétique, grand J. Donc, j'ai maintenant une sphère de rayon J, grand J, et un point Jx, Jy, Jz. Un triplet Jx, Jy, Jz, c'est un point à la surface de cette sphère. Petit n me repère l'élévation par rapport au plan équatorial, c'est Jz. Et l'angle phi, au signe près, eh bien, c'est l'azimut, c'est la longitude, si vous voulez, de ce vecteur ou de ce point sur ma sphère. Voilà, donc JZ est là, et puis JX et JY, c'est, ça repère cette valeur de phi là. Et puis le pôle nord de ma sphère, ça correspond à l'état de Fock NA égale grand N, NB égale 0. Il est encore écrit ici, c'était le N0 qui était là. Et puis le pôle sud, eh bien, c'est l'état 0N, tous les atomes dans B, aucun atome dans A. Voilà, donc vous avez ici une représentation géométrique de ce moment cinétique. Et donc, on peut se faire un dictionnaire de passage, comme je le disais, entre les jonctions externes qu'on a vues dans les premières séances et puis les jonctions internes qu'on voit ici, maintenant. Donc, l'Hamiltonien d'une jonction externe, je vous l'ai réécrit. Il avait cette allure-là. Moins EJ gamma de N cosinus phi, plus cette différence de potentiel chimique delta mu bar qu'on pouvait imposer de l'extérieur en biaisant la jonction, plus l'énergie de charge fois N2. Pour notre jonction interne, on a fait apparaître moins h bar oméga jx, moins h bar delta tilde jz, plus ec sur 2 jz carré. C'est ce qui est écrit là-bas. Je vous dis que jx, c'est, je peux l'écrire n sur 2 gamma de n cosinus phi, jz égale n, et quand je remplace jx par cette valeur et jz par n, eh bien je retombe exactement sur l'expression qui est dans la colonne de gauche, avec donc un lien entre l'énergie tunnel, le delta mu bar et ec. Là, je fais la substitution. Hein. Donc, ce que je vois, c'est que là où j'avais EJ, eh bien maintenant j'ai H bar oméga, plus précisément N H bar oméga sur 2. Donc, l'énergie tunnel, c'est la fréquence de Rabi, avec un coefficient grand N sur 2. La différence de potentiel chimique delta mu bar qu'on pouvait imposer de l'extérieur, eh bien ce sera le désaccord. Alors, ce n'est pas exactement le désaccord, c'est le désaccord renormalisé, c'est-à-dire c'est le désaccord grand delta de mon excitation, moins ce delta 1 là qui prend en compte la différence d'interaction dans l'état A et dans l'état B. Mais enfin bon, c'est un désaccord. Et puis le dernier, c'est l'énergie de charge EC. Je vous avais dit que je l'appelais directement EC, le coefficient, parce que je savais ce qui allait sortir. Simplement, quand on était dans la jonction externe, EC, ça faisait intervenir qu'un seul type d'interaction entre atomes. On avait dit que c'était la dérivée du potentiel chimique par rapport au nombre d'atomes, en fait, c'est la compressibilité. Et là, ce EC, il fait intervenir des interactions différentielles, GAA plus GBB, moins deux fois GAB. Voilà. Donc, un mot sur les comparaisons des paramètres entre ces deux systèmes. Donc, le couplage tunnel, je vous ai dit, c'est le couplage cohérent. Donc, on va pouvoir, comme je disais en introduction, explorer des systèmes où EJ devient plus important, parce qu'on va pouvoir faire des grandes fréquences de Rabi. Donc, il faudra tourner la puissance, augmenter le bouton de puissance. Et puis, l'énergie de charge, EC, donc, qui fait intervenir ces différences de coefficients, GA plus GBB moins deux fois GAB. Eh bien, là, fait qu'on a un signe plus, un signe plus, un signe moins, fait qu'on va pouvoir explorer le régime où EC peut être négatif. J'en ai pas trop parlé pour les jonctions externes, mais on peut l'explorer plus facilement pour les jonctions internes en jouant sur les valeurs des trois forces d'interaction G et J. Voilà, même s'ils sont tous positifs, la différence qui est là peut être négative et on peut donc faire des EC aussi bien positifs que négatifs avec les jonctions internes. Voilà. Bon, j'en arrive à la dernière partie de ce cours qui porte donc sur les états stationnaires de la jonction et possible transition de phase, possible bifurcation dans cette jonction. Alors, on va revenir pendant quelques minutes à de la physique quantique avant de retourner vers la physique classique. Je reprends mon Hamiltonien LMG et je vais le prendre en supposant que je me mets à des accords nuls. Ça revient à se placer sur l'équateur, c'est ce que je disais tout à l'heure. Voilà, donc je suppose, j'ai oublié ce terme-ci. Donc je vais garder simplement le terme en Jx et le terme en Jz carré. Jx et Jz ne commutent pas entre eux, donc Jx ne commute pas avec Jz carré. Et donc, si on se pose la question quel est l'état fondamental de système, en général, c'est compliqué. J'ai une somme d'opérateurs qui ne commutent pas, donc va falloir travailler. Mais ce qu'on peut faire, c'est regarder les deux cas limites où l'un des termes domine complètement l'autre. Premier cas, c'est le cas où le terme dominant, c'est le terme moins h bar oméga jx. C'est en fait ce qu'on avait appelé ensemble le régime de Rabi avant. Je vous rappelle que j'avais dessiné cet axe ici avec un paramètre qui faisait intervenir le rapport entre l'énergie de charge et puis l'énergie tunnel. Et les petites énergies de charge correspondent à ce que j'appelais le régime de Rabi, les grandes énergies de charge correspondent à ce qu'appelle le régime Josephson. Donc si je me mets dans le régime où c'est H bar oméga Jx qui domine, eh bien c'est donc le régime de Rabi. Dans ce cas-là, c'est facile de trouver l'état fondamental. Hein. L'état fondamental, quand je prends ça, c'est simplement l'état où je mets mon spin, mon grand moment cinétique aligné avec l'axe X, donc grand J, Mx égale J. Et à ce moment-là, bien, l'énergie, c'est simplement moins 1,5 de n h bar oméga. Puisque je vous rappelle que grand J, c'est n sur 2. Si je vais dans le côté du régime Josephson, le régime où c'est Jz carré qui domine, à ce moment-là, pour trouver l'état fondamental, deux choses sont possibles. Selon que EC est positive ou négative. Si EC est positif, et si je cherche à minimiser cette quantité-là, il faut que je minimise la valeur de Jz carré, donc je vais prendre l'état que j'ai qualifié de non classique tout à l'heure, grand J, mz égale 0. Lui, il a une énergie nulle, ici. Si EC est négatif, je vous ai dit que c'était possible en jouant avec les coefficients d'interaction, eh bien à ce moment-là, l'état fondamental, ça consiste à prendre mz égale plus ou moins J, et j'aurai une énergie moins n2 EC sur 8. Voilà. Maintenant, comment est-ce que je vais passer de la situation régime de Rabi à la situation régime de Josephson? Eh bien, ça dépend évidemment si EC est positif ou EC est négatif. Si EC est positif, j'ai un état fondamental ici, un état fondamental là. Je vais avoir une évolution douce entre les deux. Cette évolution douce, on va l'étudier en détail la semaine prochaine. Elle est très intéressante, elle fait apparaître des états comprimés. Il y a beaucoup de physique derrière, mais je pars a priori d'un état non dégénéré vers un état non dégénéré. Donc je vais avoir un chemin qui va me conduire de l'un vers l'autre. Dans le cas EC négatif, la situation est différente. Vous voyez, ici, j'ai mis mz égale plus ou moins j. C'est normal que j'ai mis plus ou moins j, c'est parce que j'ai jz carré ici, donc plus ou moins j auront la même énergie. Mais je passe d'une situation où j'ai un état fondamental, où là, j'ai deux états fondamentaux dégénérés. Donc la question est, qu'est-ce qu'il va faire le système? Il part sur un état possible et il doit arriver à deux états. Donc c'est là que peut se produire une bifurcation, une transition de phase qu'on va voir dans un instant. Alors là, je vous ai parlé de l'état fondamental. Comme on a affaire à un système de dimension finie, dimension grand n plus 1, on peut se poser la question de l'état de plus haute énergie. C'est une question qui est tout aussi légitime que celle de l'état fondamental dans un système de dimension finie. Je vous ai remis exactement la même chose, mais on va voir qu'on va aboutir à des conclusions opposées. Si je regarde l'énergie la plus haute possible, quand j'ai moins h bar oméga jx, eh bien l'état de plus haute énergie, ça consiste à prendre mx égale moins j, ici, pour avoir l'énergie plus 1,5 de grand n h bar oméga. Et à ce moment-là, si je prends EC positif, c'est l'état le plus haut, dans ce cas-là, EC positif, qui est doublement dégénéré, puisque je peux prendre mz égale plus ou moins j, ce qui me donne l'énergie n carré EC sur 8. En revanche, si EC est négatif, à ce moment-là, l'état de plus haute énergie, c'est l'état jmz égale 0, l'état non classique, l'énergie nulle. Et à ce moment-là, la bifurcation, elle se produit pour les EC positives, alors que j'ai une évolution douce pour les EC négatifs. C'est juste un système dual de ce qui se passait pour l'état fondamental. Voilà, j'inverse les rôles des EC positifs et des EC négatifs. Alors, ce que je viens de vous dire, c'était avec un Hamiltonien quantique. Encore une fois, c'est des choses qu'on va étudier en détail la prochaine fois. Donc là, je vais revenir simplement à des considérations classiques. Donc je reviens à l'énergie classique que j'obtiens en prenant la valeur moyenne de l'Hamiltonien. Donc cette énergie classique, je vous l'ai réécrite ici, elle contient ce terme en cosinus phi avec le gamma de n, ce terme en n carré, on l'a déjà vu souvent. Je mets dans le cas où EC est négatif, ici, donc c'est le cas où je vais avoir une bifurcation pour l'état fondamental, donc pour le minimum d'énergie. Et je ne vais pas faire tout le calcul, il est fait dans les notes. On peut étudier quel est le minimum de cette quantité, quel est le maximum de cette quantité, étudier éventuellement les variations autour de ce minimum et de ce maximum. Là, on va juste le faire avec les mains. Le minimum de cette quantité-là, ben, clairement, il est obtenu quand je vais prendre la valeur la plus grande et positive possible pour cosinus phi, puisque j'ai un signe moins devant ici. Donc le minimum, il est obtenu pour cosinus phi égale 0. Donc dans cette représentation de ma sphère, là, que je vous ai donnée tout à l'heure, ça veut dire que je me mets sur le méridien phi égale 0. Donc ce méridien-là, voilà, ici, ça c'est le méridien phi égale 0. Le maximum, il est obtenu en prenant phi égale pi, donc cosinus phi égale moins 1, qui vient compenser ce signe moins là. Ça me fait quelque chose qui est grand et positif ici. Donc, il est pour il est à la longitude phi égale pi. Donc, là, j'ai représenté deux fois la même sphère, là et là, mais simplement, entre là et là, je l'ai tourné de 120 degrés à peu près, pour que là, on voit bien le côté du minimum, et là, on voit bien le côté du maximum. Donc, ça, c'est le maximum. Donc, ça, c'est phi égale pi. Et ça, c'est la ligne phi égale 0. Hein. Donc, ce qu'on voit, c'est qu'on voit très bien cette bifurcation se produire. C'est-à-dire que, j'ai dit tout à l'heure que la bifurcation se produisait quand je passais de petites valeurs de lambda aux grandes valeurs de lambda. Ce paramètre lambda, je vous rappelle, c'est le rapport entre l'énergie de charge et l'énergie tunnel, ou si vous préférez, l'énergie de charge et la fréquence de Rabi. Eh bien, en fait, on trouve qu'elle se produit, cette bifurcation, exactement pour lambda égale moins 1. C'est-à-dire que pour lambda égale moins 1,5, mon minimum est situé sur l'axe X, ici. Hein. Donc ça correspond à un état qui n'est pas dégénéré. Je suis du côté du régime de Rabi. Ici, en fait, c'est quelque chose qui est tout plat. Et puis quand lambda est plus grand que moins 1, enfin, en valeur absolue plus grand que moins 1, vous voyez que le minimum s'est séparé en deux morceaux, ici. Enfin, j'ai un minimum ici et un minimum là. Le point ici est un point sel. Et donc ça correspond à la bifurcation qui se produit. Donc quand j'augmente la valeur de grand lambda en valeur absolue, ici, eh bien, si vous voulez, j'augmente l'énergie de charge, eh bien, je passe d'un minimum absolu à deux minima absolus ici et là. Voilà. Ça se produit donc pour lambda égale moins 1. Donc ça, c'est vraiment l'ingrédient de base d'une transition de phase. Hein. C'est une transition où je brise une symétrie qui est une symétrie Z2. Quand lambda est plus grand que moins 1 ou en valeur absolue plus petit que 1, vous avez une courbe du type courbe rouge avec un seul minimum. Et puis quand j'augmente la valeur absolue de lambda, que je passe au-dessus de 1 en valeur absolue, donc lambda égale moins 1.1 ici, j'ai la courbe bleue avec ces deux minima ici. Donc les deux minima qui sont là, celui-là et celui-là, ça correspond aux deux minima qui sont sur mon dessin ici et là. Voilà. C'est une transition qui est vraiment très analogue à la transition para versus ferromagnétisme en magnétisme. Quand vous prenez un modèle d'Ising, vous pouvez avoir des moments éthiques qui pointent soit tous vers le... pas tous, qui peuvent pointer vers le haut ou vers le bas. Eh bien, à haute température, vous avez un système qui est désordonné, c'est-à-dire que vous avez une magnétisation nulle. Hein, ça correspond à la courbe rouge, ici. Ici, c'est la magnétisation, si vous voulez. Là, c'est l'énergie libre qu'on trace. Donc, à haute température, vous avez comme ça, et la magnétisation moyenne est nulle. Puis, quand vous baissez la température, eh bien, il y a une aimantation spontanée qui se produit. Vous avez une fraction importante des moments éthiques qui pointent soit vers le haut, soit vers le bas. C'est une brisure spontanée de symétrie. Donc, de temps en temps, vous tomberez ici avec une aimantation vers le bas, et de temps en temps ici avec une aimantation vers le haut. Bon, c'est la transition qu'on voit là. C'est exactement la même, sauf qu'elle n'est pas pilotée par la température, mais elle est pilotée par la valeur de ce paramètre grand lambda, c'est-à-dire, encore une fois, le rapport entre EC, l'énergie de charge, et EJ, l'énergie tunnel, ou, si vous préférez, EC et H bar oméga, la fréquence de Rabi. Du côté EC positif, eh bien, on retrouve également ce qu'on avait pressenti à partir de l'Hamiltonien quantique, c'est-à-dire que, cette fois-ci, on prend donc EC positif, on va prendre un coefficient lambda positif. C'est la jonction Josephson qu'on a étudiée jusqu'à maintenant. Hein. On traitait des cas d'énergie de charge positive. À ce moment-là, rien d'intéressant pour l'instant ne se passe du côté du minimum. En fait, il y a des choses intéressantes, mais c'est les états comprimés qu'on verra la prochaine fois. En revanche, du côté du maximum, se produit la bifurcation dont je parlais. Quand lambda est plus petit que 1, ben, j'ai un minimum sur l'axe X. Et puis, quand lambda devient plus grand que 1, c'est un maximum. Hein. Le maximum se sépare et vous avez un maximum ici et un maximum là, avec donc cette possibilité de voir cette bifurcation. Et si on va vers les très grands lambda, c'est ce qui est dessiné ici, en fait, les positions des maxima ici et là vont se mettre très proches des pôles, du pôle nord et du pôle sud, et on obtient donc cette distribution de courbe isoénergie qui est représentée ici. Ce cas de grand lambda, en fait, c'est le cas des jonctions qu'on a étudiées jusqu'à maintenant. Je vous ai dit, la plupart des jonctions qu'on a regardées jusqu'à maintenant dans les premiers cours, c'est dans le régime de Josephson, c'est-à-dire une valeur de EC qui était très grande par rapport à n carré fois EJ. Donc ça revenait à dire que lambda était très grand devant 1. Donc je les avais pas tracés, mais si je les avais tracés, les courbes isoénergie de nos jours sous Josephson auraient eu cette allure-là. Et d'ailleurs, dans un instant, on va vérifier qu'on retrouve bien tous nos petits à partir de ces courbes isoénergie. Et là encore, la transition de phase donc, se produit pour lambda égale 1 au niveau du maximum. Alors, justement, est-ce qu'on retrouve bien tous nos petits, tout ce qu'on avait vu jusqu'à maintenant, dans le cas EC positif et grand lambda? Donc je vous ai redessiné la même figure que celle qui est figurée tout à l'heure, juste à la diapositive présente pour lambda égale 20. Donc vous avez le minimum qui est ici, et puis si je tourne ma sphère de 120 degrés à peu près, vous voyez, ce point-ci est un point sel ici, et les maxima sont venus se mettre quasiment au pôle nord et quasiment au pôle sud. Alors, quand je dis retrouver nos petits, qu'est-ce que je veux dire? Eh bien, je veux retrouver deux aspects intéressants de la dynamique qu'on avait vue ensemble. Le premier aspect, ce sont les oscillations plasma, et le deuxième aspect, c'est ce que j'avais appelé l'autopiégeage. Alors, les oscillations plasma, pour commencer. Les oscillations plasma, je vous rappelle ce que c'est ce qui se passe quand vous prenez votre jonction, vous le partez à l'équilibre et vous la déséquilibrez un tout petit peu, mettons un tout petit peu plus d'atomes en A qu'en B. On avait vu qu'on avait une oscillation qui se produisait avec une oscillation quadrature pour la phase et pour le nombre de particules, oscillation autour de la valeur moyenne d'équilibre, Na égale Nb. Eh bien, ça, c'est exactement une trajectoire sur la courbe isoénergie qui est représentée en rouge, là. Je déséquilibre un tout petit peu ma jonction, c'est-à-dire que je mets un tout petit peu plus d'atomes dans A que dans B, donc je monte ici, j'ai un petit n qui est non nul, et puis j'ai cette oscillation-là, donc ici ma jonction redevient à Na égale Nb, mais j'ai mis une phase non nulle, c'est la quadrature entre la phase et le nombre de particules, et puis je passe à la jonction qui est déséquilibrée dans l'autre sens, et je reviens au point initial. Donc l'oscillation plasma, c'est simplement une oscillation autour du minimum ici, sur ces courbes isoénergie. Quant à l'autopiégeage, eh bien, ça consiste à partir d'une jonction beaucoup plus déséquilibrée. C'est la courbe verte. Allez, je vais prendre un pointeur vert ici. Ça consiste à partir d'ici. Donc là, j'ai un grand déséquilibre. J'ai mis beaucoup plus d'atomes dans A que dans B. Et à ce moment-là, eh bien, je vais encore suivre la courbe isoénergie. Je vais me balader comme ça. Je vais arriver du côté où j'avais mes maxima locaux. Et vous voyez que je reste toujours dans l'hémisphère nord, là, en suivant la courbe énergie. Puis après, je ressurgis ici et je repars là. Donc, je suis une courbe, mais cette courbe est uniquement dans l'hémisphère nord parce que je ne croise jamais l'équateur en ce point-ci. Et ça correspond à ma jonction qui était fortement déséquilibrée et donc une oscillation qui était simplement comme ça, mais on ne repassait jamais par le point Na égale Nb. Et ça, c'est donc cette trajectoire verte ici, c'est simplement parce que je suis venu mettre mes maxima complètement au pôle nord et au pôle sud. Donc, je retrouve complètement la dynamique de ma jonction. Voilà. Alors, je termine, dans les quelques minutes qui restent, par les quelques mises en évidence de ce phénomène. Première mise en évidence, elle a été faite pour une jonction interne, donc, dans le groupe de Markus Oberthaler à Heidelberg. C'est une série d'expériences qui s'est allée entre 2010 et 2015. Il travaille sur des atomes de rubidium, donc typiquement 500 atomes de rubidium, dans un piège qui est fortement confinant pour que l'approximation du mode spatial unique soit bien valable. Les deux états A et B qui sont choisis sont ces deux états-là, donc ces deux états qui sont issus de la multiplicité F égale 2 d'un niveau hyperfin et l'autre du niveau F égale 1 d'un niveau hyperfin. On prend ces deux états-là avec M égale moins 1 pour A et M égale plus 1 pour B, c'est un peu technique, mais parce qu'ils se comportent exactement de la même façon dans un champ magnétique, ils sont déplacés pareil, donc ça fait des états qui sont peu sensibles, une paire d'états qui est peu sensible au champ magnétique extérieur. On prépare les atomes dans un point donné de la sphère de Bloch, donc un état cohérent de spin, et on regarde comment cet état évolue en fonction du temps, en mesurant soit petit n, soit petit phi. Et avec ça, eh bien, on est capable donc de reconstruire sur la sphère qu'on a étudiée jusqu'à maintenant, des trajectoires. Donc on est dans le cas où EC est positif, donc on s'attend à ce que la bifurcation se produise pour le maximum de l'énergie, pas pour le minimum, pour le maximum, et c'est effectivement ce que voient les chercheurs de Heidelberg. Donc là, ils ont pris deux valeurs du paramètre grand lambda, qui correspond simplement à deux valeurs de la fréquence de Rabi, hein, une fréquence de Rabi grande, une fréquence de Rabi petite, et ils suivent comme ça les trajectoires, donc chaque type de point correspond à une condition initiale donnée, donc vous avez des carrés rouges, par exemple, qui est une condition initiale où vous êtes proche du maximum, et vous tournez autour du maximum ici, puis des deux anges rouges, vous êtes un petit peu loin du maximum, et puis des points bleus. Et on reconstruit comme ça des trajectoires, et ils ont pu vérifier donc, que selon la valeur de lambda, eh bien, ou bien le maximum, aussi bien le maximum que le minimum qui est situé ici, sont des points isolés, ou alors, sont uniques, un unique maximum, un unique minimum, ou alors, quand on prend des plus grandes valeurs de lambda, eh bien, le maximum s'est scindé en deux valeurs, une valeur dans l'hémisphère nord, une valeur dans l'hémisphère sud. Et ils ont comme ça reconstruit très bien les trajectoires. On peut regarder la valeur moyenne de ces trajectoires, c'est-à-dire que pour ce point vert, là, la valeur moyenne sera à peu près ici, pour le point rouge, la valeur moyenne sera là, et c'est ce qui est tracé sur cette diapositive. Donc là, on trace la valeur moyenne des trajectoires, toujours en fonction de ce paramètre grand lambda, et ce qu'on trouve, c'est donc, tant que lambda est inférieur à 1, eh bien, la valeur moyenne des trajectoires autour des maxima est centrée sur 0, donc il y a un seul maximum qui est sur l'équateur, et puis, quand on dépasse la valeur 1, eh bien, on a deux types de valeurs moyennes, selon qu'on prépare dans l'hémisphère nord ou dans l'hémisphère sud, vous avez ces deux types de valeurs moyennes qui correspondent à la bifurcation, la transition de phase dont je vous parlais. Voilà, donc c'est une très jolie illustration de cette bifurcation pour EC positif et donc au niveau du maximum. Alors, une fois qu'on a bien compris ça, on peut regarder ce qui se passe pour des jonctions externes. Pour les jonctions externes, ce n'est pas évident d'aller regarder le maximum parce que pour regarder le maximum, il faut vraiment avoir un système de dimension finie. Alors, avec les états internes, il n'y a pas de problème. Avec les jonctions externes, on a vite fait d'exciter des choses en plus de ce qui nous intéresse dans la jonction, des phonons ou des choses comme ça. Donc, c'est plus simple de regarder ce qui se passe au niveau du minimum. Mais pour avoir les bifurcations du côté du minimum, je vous rappelle, il faut avoir EC négatif. EC négatif, ça veut dire des particules qui s'attirent. Des particules qui s'attirent, c'est souvent dangereux, parce que si elles s'attirent trop, ça peut imploser. Le système peut imploser. Donc, on est un peu sur le fil du rasoir. Néanmoins, ça marche, si on est très soigneux. C'est ce qui a été vu dans le groupe de Marco Fattori à Florence. C'était il y a quelques années maintenant. Les atomes qui sont utilisés sont des atomes de potassium, 39. On a à peu près 4000 atomes. Donc là, on revient à une jonction externe, donc une barrière tunnel qui coupe le gaz en deux. Vous avez ici, encore une fois, le paramètre grand lambda. Cette fois-ci, on va varier ce paramètre lambda en variant la force de l'interaction. Donc, cette force d'interaction, je vous dis, doit être attractive, ce qui veut dire une longueur de diffusion négative. Donc, on part de lambda égale 0, c'est-à-dire qu'on n'a pas d'interaction. On règle ça avec un champ magnétique qui crée une résonance de Fano-Feshbach. Donc là, quand on est dans ce régime lambda quasiment nul, eh bien, on peut vérifier que la jonction est à peu près équilibrée dans son état fondamental. J'ai le même nombre d'atomes à gauche et à droite, quelle que soit la réalisation que je prends. Et puis, quand on change un petit peu la longueur de diffusion, alors on ne change vraiment pas beaucoup, hein, parce que, encore une fois, on risque l'implosion quand on fait ce type d'expérience. Donc, il ne faut pas prendre une longueur de diffusion trop grande et négative. Mais là, vous voyez, la longueur de diffusion vaut simplement moins 1,8 rayon de bord, donc ça, c'est vraiment petit. Mais normalement, ça suffit pour traverser le seuil lambda égale moins 1. Et là, ce qu'on voit, c'est que quand on fait plusieurs réalisations de l'expérience, eh bien, la moitié des cas, on a beaucoup plus d'atomes à gauche qu'à droite. L'autre moitié des cas, on a beaucoup plus d'atomes à droite qu'à gauche. C'est ce que vous voyez ici. Donc, l'état fondamental, maintenant, c'est séparé en deux étapes fondamentaux possibles. Un état fortement déséquilibré dans un sens, l'autre fortement déséquilibré dans l'autre sens, et c'est comme les aimants quand on refroidit un matériau magnétique, c'est une brisure spontanée de symétrie, et on ne peut pas savoir a priori s'ils vont aller tous à gauche ou tous à droite, mais ce qu'on voit expérimentalement, c'est donc 50-50 de ceci ou de cela. Voilà. Très superbe expérience. Donc je conclue, je vois que je suis un petit peu en retard, je vous prie de m'excuser. Donc ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est donc comment étendre le concept de jonction Josephson à des degrés de liberté interne, ce qui a été très utile pour l'hélium-3 et utile également pour des gaz atomiques ultra-froids. On a paramétrisé notre problème en termes d'un grand moment cinétique, avec cette relation de Schwinger, cet Hamiltonien LMG. On a pu retrouver ce à quoi on était habitué des premiers cours, la dynamique classique pour les états cohérents de spin. Et donc la grande question qui reste maintenant, c'est que se passe-t-il quand l'approximation classique n'est plus valable ? Et en particulier, est-ce que l'état fondamental lui-même de la jonction peut être non classique? Et ça, ben, c'est le programme pour les deux cours prochains. Voilà, ben, je m'arrête ici. Je vous rappelle le séminaire de Benoît Vermersch dans une dizaine de minutes et je vous remercie pour votre attention.
Collège de France, le savoir en illimité. Retrouvez tous nos contenus audio et vidéo sur notre site collège-de-france.fr, les plateformes de podcast et nos chaînes YouTube.